Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Que la mort nous frôle » est un thriller psychologique de Michel Bussy situé dans la Suisse vaudoise, près de Lausanne, en 1953. Le roman s'inscrit dans la tradition du huis clos à suspense, avec un décor de manoir isolé, les amarantes, transformées en pensionnat pour adolescents marqués par la guerre. Jeanne, jeune psychiatre spécialisée dans les traumatismes, y découvre un univers fermé où cohabitent souffrances psychiques, méfiance, secrets institutionnels et de phénomènes inquiétants, l'intrigue repose sur une construction narrative à rebondissement, typique de l'auteur où les apparences sont constamment trompeuses. Au-delà du mystère, le livre interroge la mémoire, la reconstruction après le conflit, la manipulation du regard et la manière dont un lieu peut concentrer les blessures individuelles et collectives. C'est donc à la fois un roman d'atmosphère, un suspense d'enquête et une réflexion sur ce que la guerre laisse derrière elle. Je vais vous présenter les points clés de ces livres. Premièrement, un huis clos suisse où l'architecture du lieu devient un moteur du suspense. Le roman repose d'abord sur un cadre très resserré qui conditionne toute la lecture. Le manoir des Amarantes n'est pas seulement un décor, il organise l'enfermement, la surveillance et l'impression de menaces diffuses. Placé près de Lausanne, dans une Suisse a priori paisible, il crée un contraste entre la tranquillité apparente du paysage et la violence psychologique qui y circule. Ce choix est central, car le huis clos permet à Michel Bussy de limiter les issues possibles et de faire monter la tension à partir de détails concrets, déplacements dans les couloirs, objets déplacés, espaces interdits, présence d'une tour étrange. Le lecteur comprend rapidement que chaque pièce peut contenir un indice ou une tromperie. Cette économie de l'espace renforce l'efficacité du thriller, car elle oblige à lire le décor comme un système de signes plutôt que comme un simple environnement. Le lieu devient presque un personnage, avec sa mémoire propre et ses zones d'ombre. Deuxièmement, des adolescents traumatisés par la guerre comme révélateurs de la fragilité psychique, l'un des axes les plus forts du roman est la présence d'adolescents dont les trajectoires ont été brisées par la guerre. Charlie, Teresa, Abigail et Fausto incarnent des formes différentes de vulnérabilité, paranoïa, handicap, rébellion, traumatisme concentrationnaire. Leur réunion dans un même établissement n'a rien d'anodin, car elle donne au récit une base psychologique solide. Michel Bussy utilise ces personnages pour montrer que le traumatisme ne se limite pas à un souvenir douloureux, il modifie la perception du réel, la confiance envers autrui, les réactions corporelles et la manière d'habiter le temps. Le roman évite ainsi de réduire la souffrance à un simple ressort narratif. Les comportements apparemment incohérents prennent sens dans un contexte de survie psychique. Cette approche donne au suspense une profondeur supplémentaire, car le doute ne porte pas seulement sur les événements, mais sur la fiabilité même des perceptions. Le lecteur est amené à se demander si les signes étranges relèvent du surnaturel, de la manipulation ou d'une mémoire fracturée par la violence historique. Troisièmement, la mémoire de la guerre comme matière narrative et morale du roman. Le livre ne se contente pas d'utiliser l'après-guerre comme toile de fond historique, il en fait le cœur de son questionnement. Les pensionnaires viennent d'univers marqués par les persécutions, les déplacements, les camps et les pertes irréparables. Cette situation fait émerger une réflexion sur la mémoire traumatique, c'est-à-dire sur la difficulté à raconter ce qui a été subi sans le déformer ou le refouler. Le roman suggère que le passé agit encore dans le présent, non sous forme de souvenirs stables, mais comme une présence instable, parfois intrusive, parfois silencieuse. Les phénomènes observés au manoir sont d'autant plus troublants qu'ils peuvent être lus comme la métaphore de ces retours du passé. Michel Bussy transforme ainsi la mémoire en enjeu moral que font des survivants. Comment les écoute T.O.N. qui décide de ce qui est vrai ou acceptable? Cette dimension donne au roman une portée plus large qu'une simple intrigue à mystère. Elle relie l'énigme policière à une interrogation sur la transmission, la réparation et le droit de ceux qui ont été abîmés par l'histoire à reconstruire leur identité. Quatrièmement, le docteur Gruber, Jeanne et l'ambiguïté du savoir psychiatrique. La présence de Jeanne, jeune psychiatre spécialisée dans les traumatismes, introduit une autre couche d'analyse, celle du pouvoir médical et de ses limites. En face d'elle, le docteur Gruber incarne une autorité plus opaque, liée à des pratiques inquiétantes et à une institution dont les objectifs paraissent ambigus. Le roman exploite ici une tension très efficace entre soins et contrôle. La psychiatrie peut être un outil de compréhension et d'aide, mais elle peut aussi devenir une forme d'enfermement si elle se ferme au consentement et à la vérité des patients. Jeanne arrive donc dans un espace où la science, la morale et la suspicion se mélangent. Le lecteur est invité à observer non seulement ce qui est dit aux patients, mais aussi ce qui leur est caché. Cette opposition permet à Michel Bussy de poser une question essentielle: jusqu'où peut-on prétendre guérir quelqu'un sans lui rendre sa propre voix? Le roman tire de cette ambiguïté une bonne partie de sa tension dramatique, car le mystère ne concerne pas uniquement une disparition ou des anomalies, mais l'usage même de l'expertise psychiatrique comme instrument de domination potentielle. En dernier lieu, un roman à twist qui repose sur la relecture des indices et la manipulation du point de vue, comme dans plusieurs romans de Michel Bussy, l'efficacité du récit dépend de la manière dont le lecteur accepte de jouer avec les indices. Tout est construit pour orienter l'attention puis la détourner. Les statues, la tour, les disparitions et les comportements des personnages fonctionnent comme des signaux narratifs qui semblent d'abord dispersés avant de prendre sens dans une architecture plus vaste. Ce procédé n'est pas seulement un artifice de surprise, il met en scène la fragilité de l'interprétation. Le lecteur croit comprendre, puis doit réévaluer ce qu'il a lu à partir d'un autre cadre de lecture. Dans ce roman, le twist final n'a donc de force que s'il transforme le statut de scène déjà vu. C'est ce qui distingue Bussy d'un simple auteur de mystère. Il construit une expérience de lecture fondée sur la relecture mentale permanente. En même temps, cette mécanique peut rendre le roman plus ou moins efficace selon le niveau d'habitude du lecteur face au genre. Le livre assume pleinement cette logique et c'est elle qui lui donne sa cohérence formelle. En conclusion, Que la mort nous frôle s'adresse en priorité aux lecteurs de thrillers psychologiques, aux amateurs de récits à huis clos et à ceux qui apprécient les romans où l'intrigue policière dialogue avec l'histoire et la mémoire traumatique. Le livre peut aussi intéresser les lecteurs sensibles aux questions de psychiatrie, d'enfance blessée et de reconstruction après-guerre, car il ne traite pas seulement d'une énigme, mais d'un environnement humain profondément fissuré. Son principal intérêt est de combiner un suspense très lisible avec une matière historique et émotionnelle forte, là où beaucoup de thrillers se concentrent sur l'accumulation de rebondissements. Celui-ci cherche aussi à faire sentir la violence silencieuse du passé et la façon dont elle se loge dans les corps, les lieux et les institutions. Sa singularité tient également à l'usage d'un décor fermé et d'un récit orienté vers la révélation finale, ce qui en fait un roman très construit, presque mécanique, mais aussi sensible. Pour qui aime les intrigues où chaque détail peut changer de sens à la fin, ce livre offre une lecture à la fois divertissante et intellectuellement active. Si vous souhaitez soutenir Michel Bussy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.